Chapitre 90. Alors que Juna retourne en direction de la maison de Randy à Vibu, il repense à sa conversation avec Saga. Il espère qu'elle va se rendre, sinon il devra se lancer à sa recherche. Il doit absolument comprendre comment Saga et Mara sont reliés. C'est le nœud du problème. Il rappelle Greta afin de savoir s'il y a du nouveau.
« Tu as pris un congé », lui rétorque-t-elle sévèrement. « Je ne veux divulguer aucune information sur une enquête en cours. »
« J'ai pas le temps pour ça », répond-il calmement.
« Tu as choisi de partir, Greta »,
l'interrompt-il. « Je comprends que tout le monde soit triste et bouleversé, mais c'est moi qui ai été désigné comme la 9e victime. Et je dois essayer d'arrêter Mara avant qu'il ne soit trop tard. »
« Ok, mais ne me demande plus rien après. On a trouvé une douille blanche et deux douilles classiques. Les analyses médico-légales ne font que commencer, mais tout indique que la victime est bien Randy. D'après les premières constatations, l'incendie pourrait être accidentel. Il a heurté une pompe en essayant de s'échapper, et les vapeurs d'essence se sont enflammées d'elles-mêmes. Mara et Saga n'ont pas eu le temps de dissoudre le corps cette fois-ci.
Randy a probablement brûlé vif, conclut-elle d'une voix grave. Est-ce qu'il y a des traces de Saga? Demande Juna.
Oui, il y en a. Cette fois, il va falloir frapper fort, les neutraliser toutes les deux s'il le faut. Tu comprends, n'est-ce pas?
Et tu vas... J'avais obtenu une promesse de ton chef, l'interrompt Juna. Emmener Saga au centre de détention pour qu'elle ait une chance d'expliquer son rôle dans cette affaire.
« Ne me rappelle plus »,
dit Greta avant de mettre fin à l'appel. Juna passe devant la maison de Randy. Toute la zone est bouclée et trois voitures de police sont garées le long de la rue. Il ralentit un passage pour piétons, laisse passer deux petits garçons qui se tiennent par les épaules, continue et tourne en direction du lotissement suivant. Si Mara était cachée dans la voiture de Randy, son pick-up est probablement garé quelque part dans le quartier. Il passe devant des maisons mitoyennes couleur abricot et de petits jardins avec des meubles d'extérieur. Juna pense à Yurek. Celui-ci n'a jamais rien fait qui soit inutile. Son système était sa façon de structurer sa mémoire, un palais de la pensée. Il n'a jamais été question de communiquer avec la police ou de jouer aux devinettes. Peut-être en est-il de même pour Mara. Ces énigmes ne serait que les fils de sa toile d'araignée, sa méthode pour piéger ses victimes. Il continue jusqu'à la Landgårdsvägen et traverse un quartier de maisons mitoyennes peintes en blanc et gris. Sur une place de parking, il voit une caravane et une voiture recouverte d'une bâche. Un homme barbu marche sur un chemin avec un bébé harnaché sur la poitrine. Juna fouille méthodiquement la zone pavillonnaire. Il accélère légèrement sur l'avenue Meister Henrik. Devant lui, une clôture blanche écaillée se détache sur une pelouse bien entretenue, entre des grands arbres à feuilles caduques. Il ralentit, tourne à gauche, dépasse une femme avec un déambulateur et se dirige vers un parking. Un pick-up Ford, équipé d'un puissant treuil électrique, est garé tout au fond, à l'ombre d'un grand chêne. Juna s'arrête devant la sortie pour la bloquer, se saisit de son arme et sort de la voiture. Le vent s'engouffre dans la cime des arbres. Les pneus et les ailes du pick-up de Mara sont couverts de boue séchée. Le reflet du ciel blanc rend les vitres opaques. Juna s'approche du véhicule. Deux barils en plastique, des sangles et une bâche enroulée sont posés dans la benne. Le crochet suspendu au treuil par un câble se balance dans le vent. La vitre arrière est scellée avec du ruban adhésif. Juna aperçoit son reflet dans la vitre latérale sale, côté conducteur. Il tire sur la poignée, mais la porte est verrouillée. À travers son image, il devine le volant, la courbe du siège, le levier de vitesse et le frein à main. La crosse de son pistolet cogne la vitre lorsqu'il se penche et se protège de la lumière avec ses mains. Sur le siège du conducteur, il découvre le dernier paquet. Il recule d'un pas et brise la vitre avec son arme. Des éclats de verre pleuvent sur le siège. La femme au déambulateur le regarde fixement, puis fait demi-tour et se hâte de s'éloigner.
Il s'approche, ouvre la portière et attrape le paquet. Celui-ci est plus lourd que d'habitude. Il court jusqu'à sa voiture, ouvre le coffre, pose le colis dedans et commence à arracher le ruban adhésif. Mais il songe soudain qu'il devrait se méfier cette fois-ci. Il va chercher son canif dans la boîte à gants, fait un petit trou dans le fond du paquet et regarde à l'intérieur. Le carton est rempli de terre. Il découpe tout le fond de la boîte et verse lentement la terre dans un sac en plastique. Et une petite figurine en étain apparaît, gris argenté sur le fond terreux. Il la ramasse, souffle dessus pour enlever la terre. Et soudain, il comprend tout.